Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de ce débat politique. La jeunesse et la politique du président centrafricain Faucet-Archange Touadéra, sous la demande de certains jeunes du pouvoir et de l'opposition démocratique. Nous avons retenu ce thème pour parler des raisons ayant poussé les autorités à dissoudre l'association des étudiants centrafricains ANICA et à suspendre les activités du Conseil national de la jeunesse ENJ. Et selon le constat, le gouvernement travaille désormais beaucoup plus avec les organisations de la jeunesse qui soutiennent ces actions au détriment des associations légales et regroupant les jeunes de différentes obédiences. Pourquoi le gouvernement mouloua met-il fin aux activités du Conseil national de la jeunesse? Qu'est-ce qui explique la dissolution de l'association des étudiants centrafricains? Le président Faucet-Archange Touadéra est-il en train de museler la jeunesse? Voilà les principales interrogations qui vont nous guider tout au long de cette émission. Et pour en parler, je reçois Madame Kessie Ekomo-Soigné, fondatrice et analyste principale au sein de l'Observatoire pour la paix et le développement en République centrafricaine. Madame, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Ben Wilson Gassan, bonjour.
Bonjour Armando.
Journaliste indépendant et porte-parole du groupe des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016. Et Norbert Pounaba, bonjour.
Bonjour Armando.
Chargé de mission à la primature en matière des organisations de la jeunesse, membre du Front républicain et président fondateur du mouvement Touadéra Ma Solution. Oui. Et une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Nekeluka.
L'actualité oblige, les Fauves de Bazubongi de foot ont perdu devant les Palancas Negras d'Angola 2-1 au Cameroun. C'était samedi dernier. Cette défaite a plongé toute la République centrafricaine dans un désarroi. Madame Kessie Ekomo, comment avez-vous digéré cette défaite des Fauves de football?
Merci beaucoup Armando. Je pense en tant que centrafricaine, bien sûr, ça a été c'était une désillusion. Hein. On a soutenu du mieux qu'on pouvait de là où on était, même si on sait que certains compatriotes se sont rendus au Cameroun pour aussi apporter leur soutien à l'équipe. Mais c'est le jeu. Je pense que ça fait partie du fair play. On est déçus parce qu'on espérait que cette fois-ci ça passerait, mais on garde espoir que les prochaines fois, au fait, les choses iront mieux.
Avec tout ce que nous avons vu, mobilisation de Bangui, de presque de toutes les 20 préfectures de la République centrafricaine, mais c'était quand même un coup dur pour la République.
Hein. Effectivement, c'est un investissement. C'est un investissement qui en valait la peine, dans une certaine mesure, en raison en fait, peut-être de l'occasion historique qui se présentait. Mais la défaite fait partie du jeu. Donc je pense qu'il faut le prendre peut-être de manière un peu...
Voilà, ça va redynamiser l'équipe prochainement.
On espère bien.
Voilà, Monsieur Norbert, par rapport à la défaite de Fauve de Bazubongi, beaucoup plus de football la fois dernière.
Bon, vous savez, le ballon, il est rond. On ne peut jamais avoir un match prédire une victoire. Même si on pense que l'équipe en face n'est pas capable de nous battre. Mais bon, le ballon, il est rond. Et puis, je tiens ici à saluer la mobilisation de toute la population, la mobilisation de tous les Centrafricains. Comme il est dit, que le sport unit le peuple. Donc, vous voyez, lors des préparatifs de ce match, tout le monde s'est mobilisé. Et il n'y a pas vraiment de frontière entre les Centrafricains. C'est ce qui m'a beaucoup le plus remarqué lors des préparatifs de ce match. Et aussi, je tiens à féliciter la Fédération Centrafricaine de football et le gouvernement qui se sont engagés, qui ont mis tous les moyens pour que nous puissions, au moins pour une première fois, être qualifiés pour cette CAN. Mais bon,
l'espoir est encore là.
L'espoir est encore là. Nous avons encore un match devant nous contre le Ghana. Et la République centrafricaine a toujours fait ses preuves devant les grandes nations du football. On a battu beaucoup de pays, beaucoup de nations, beaucoup de grandes nations de football, comme le Nigeria, comme l'Égypte, etc. Donc moi, je pense qu'on a toujours cet espoir d'être qualifié pour la CAN.
Le sport unit le peuple, Ben Gassan. Nous avons vu, nous avons expérimenté la fois dernière, ici à Bangui et dans toute la République centrafricaine, l'opposition, pouvoir, société civile, tout le monde a mis de côté ces divergences. Et nous avons vu ce qui s'est passé, une grande mobilisation pour soutenir les Fauves. Et malgré la défaite des Fauves, la République centrafricaine garde toujours espoir.
Armando, tout d'abord, j'aimerais saluer la forte mobilisation de la population lors de ce match. Comme vous l'avez si bien souligné ici, la mobilisation était générale dans toutes les préfectures de la République centrafricaine, mais aussi dans la diaspora. Nous avons vu des centrafricains qui vivent en Europe, un peu partout en Afrique, qui ont effectué le déplacement de Douala afin d'apporter un soutien aux fauves, parce que ce match était très attendu. Hein. Il y avait beaucoup d'attentes. Une victoire issue de ce match devait normalement permettre à la République centrafricaine de se qualifier pour une première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement que la victoire n'était pas au rendez-vous. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, la défaite fait partie du jeu. Mais par contre, moi je pense qu'il y a des leçons à tirer hein, de cette défaite des Fauves à Douala. La question que beaucoup de Centrafricains se posent aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait que les Fauves de Bazou Bangui continuent de livrer des matchs qu'ils étaient censés jouer chez eux à Douala? C'est déjà des dépenses pour l'État centrafricain.
Mais la réponse est claire, parce que le stade centrafricain est sous sanction pour l'instant. C'est un peu difficile.
Mais Armand Lo, c'est depuis presque 2 ans que ce stade n'est pas selon les normes, hein, d'après le rapport de la FIFA. Qu'est-ce que notre gouvernement fait aujourd'hui pour que le stade 20 000 places soit remis en état pour permettre à nos Fauves de jouer sur leur terre?
Les Fauves jouaient ce match ici, vous pensez que la République centrafricaine pourrait être qualifiée?
À 40% oui. Pour ceux qui connaissent comment le monde du football fonctionne, on dit que les supporters sont les 12e joueurs. Hein, sont les 12e joueurs. Si les Fauves jouaient, livraient ce match sur le stade aux 20 000 places, ça pouvait les galvaniser, ça pouvait apporter un plus au temps de jeu qu'ils devraient livrer. Donc moi je pense qu'au-delà du sentiment de regret, du sentiment de désillusion que les Centrafricains ont aujourd'hui, nos autorités doivent pouvoir penser à la réhabilitation du stade 20 000 places afin de permettre aux Fauves d'avoir le temps de préparation nécessaire pour nous offrir cette qualification tant attendu.
Et quelques mots sur ce point pour qu'on puisse évoluer, M. Norbert.
Non, c'est vrai, aujourd'hui, on est au regret hein, de voir que nous avons perdu un match qu'on devrait normalement gagner. Et je vois que le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, déploie des efforts aujourd'hui pour que notre stade puisse être remis en état. Donc, il y a déjà une promesse de la part d'un certain nombre de partenaires, comme la République populaire de la Chine, qui doit aujourd'hui se mobiliser pour que le stade soit réhabilité. Donc déjà, je pense qu'il y a des solutions en vue pour que nous puissions remédier à ce problème.
Revenons à notre mouton. Après la suspension du Conseil national de la jeunesse, les jeunes centrafricains n'ont aucun espace pour se faire attendre. Monsieur Pounaba, comment justifiez-vous la décision du gouvernement qui a mis fin aux activités de cette organisation nationale?
Bon, déjà, je tiens à rappeler que le gouvernement avait cette bonne volonté. D'abord à la jeunesse, le gouvernement ne s'était pas levé comme ça pour pouvoir suspendre les activités du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse. C'était suite à des malentendus entre les membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, notamment la présidente et son vice-président, qui ne s'entendaient pas, et que le gouvernement, à un moment donné, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, a tenté en vain de trouver des solutions pour qu'ils puissent se remettre ensemble. Et le gouvernement, avec sa bonne volonté pour préserver la quiétude au milieu jeune, a jugé mieux de ne pas suspendre le Saint-Jou, mais de suspendre les activités du bureau sortant du Conseil national de la jeunesse, avec une volonté qui était suivie automatiquement de la mise en place d'un comité d'organisation des élections du Conseil national de la jeunesse, qui effectivement a fait un travail pour la mise en place des démembrements du Conseil national de la jeunesse, en commençant par les conseils d'arrondissement de la jeunesse, les conseils préfectoraux de la jeunesse, jusqu'à l'élection des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Et vous le savez, vous êtes informé mieux que quiconque, quand on organisait les élections pour la mise en place du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse, il y avait eu des couacs et que le comité qui devrait normalement continuer son travail n'avait que 3 mois. Donc les activités du comité avaient déjà pris fin lorsque les élections de Bangui étaient suspendues. Et donc aujourd'hui, normalement, on devrait déjà reprendre le processus pour la mise en place du bureau du Conseil national de la jeunesse, sauf qu'il y a un des candidats qui a signé en justice aujourd'hui le comité d'organisation des élections Et donc, du coup, la
celui qui a été déclaré vainqueur, vous le parlez de Michael Kikobé au départ.
Qui a été déclaré provisoirement vainqueur. Parce qu'il y a une différence, puisqu'il y a une publication.
Je parle de vainqueur après l'élection, oui.
Oui, c'est ce que je dis. Il faut d'abord mettre le mot provisoire pour ne pas dire qu'il a été délibéré définitivement élu et que les choses se sont mal tournées. Donc, comme il a intenté une action en justice, l'action encore en justice, on ne peut pas, dès lors qu'il y a une affaire en justice, on ne peut pas encore relancer le processus. On attend que la justice fasse son travail. Et puis après, bon, on va remettre en place les activités pour la mise en place du bureau de conseil national de la jeunesse.
Et sur cette question, on va faire le tour de la table. D'abord, Ben, vous prenez la parole pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein du conseil national de la jeunesse. D'ailleurs, ça n'existe plus. Pour l'instant, les activités du conseil national de la jeunesse sont mises aux arrêts. Et c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelle est la place de la jeunesse dans ce qui se passe aujourd'hui.
Armando, je vous remercie pour cette question. Moi, j'aurais aimé à ce que nous posions le débat dans un contexte plus général. Parce que si on résume les difficultés que la jeunesse traverse aujourd'hui en matière de plateforme d'expression, au seul cas du Conseil de la jeunesse centrafricaine, on risquera de passer à côté. Parce que d'abord, il y a eu un premier cas, la suspension de l'Association nationale des étudiants centrafricains. Ça date aujourd'hui pratiquement de 3-4 ans que l'Association nationale des étudiants centrafricains n'est plus en fonction. Ça, c'est le premier fait. Et le fait le plus récent, c'est la suspension des activités du bureau exécutif du CNJ, suivi de l'annulation des élections qui avaient eu lieu après cette suspension. Moi, ce que je pense, c'est que chaque fois que la politique cherche à avoir une mainmise sur les acteurs qui animent la vie des organisations de la jeunesse, ça pose problème, ça crée le désordre. Et nous en avons le cas avec l'Association nationale des étudiants centrafricains et aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Donc, à un certain niveau, je vois les choses sous deux angles. D'abord, l'angle de la mainmise que la politique veut absolument avoir sur la jeunesse et ensuite la question de la manipulation de cette jeunesse à des fins politiciennes. Donc moi, c'est de cette façon-là que je pense la chose.
Vous l'avez compris avec le scénario de la suspension de l'ANECA, et c'est peut-être le même scénario, parce que, comme vous avez suivi M. Pounaba, il n'y a pas d'attente entre les acteurs, les jeunes, au niveau du Conseil national de la jeunesse, au niveau de l'ANECA. C'est pour cette raison que la politique est obligée d'intervenir pour mettre fin.
Non, Armando, c'est une relation de cause à effet. Quand le désordre est créé, quand il n'y a pas d'entente entre les acteurs qui animent les plateformes de la jeunesse, c'est tout simplement parce que la politique a voulu avoir la mainmise sur ces organisations. Du coup, ça crée le désordre, ça crée la mésentente. Et le cas de l'ANECA ainsi que le cas du Conseil national de la jeunesse sont des cas similaires.
Oui, Madame Kessier-Komo, vous avez suivi les intervenants, vos prédécesseurs. Qu'en dites-vous sur cette situation?
Je pense que pour moi, enfin, ayant été témoin au fait de la construction de l'agenda jeunesse en République centrafricaine ces 10 dernières années, moi le constat est clair, c'est qu'on a fait un bond en arrière. Mais vraiment en arrière. C'est que j'ai vu ces dernières années les organisations de jeunes, le Conseil national, l'ANECA à l'époque, qui ont pu, dans un effort, réorganiser les discussions et l'agenda en matière de jeunesse, de développement et de comment ça s'appelle, les opportunités pour la jeunesse. Mais là, le fait qu'ils aient disparu, effectivement, je rejoins Ben sur ce point-là. Autant il y a une explication qui pourrait être de l'ordre de l'organisation des élections et autres, mais autant on voit aussi que dans la narrative, on a beaucoup plus de discours partisans qui font au fait que ces structures-là ne peuvent pas tenir. Et donc, elles disparaissent, mais ça laisse un grand vide, au fait, pour les jeunes. C'est qu'il ne faut pas juste voir les jeunes qui sont membres de ces structures. Il faut penser la jeunesse dans sa généralité. Et de voir dans quelle mesure la disparition, ou du moins la suspension de ces structures, remet en question l'avenir aussi de toute une génération de jeunes. Des espaces, au fait, d'expression. Parce que, pour revenir sur le fait qu'on est dans une dynamique de construction d'un projet de société. Un projet de société, et pendant toutes ces 10 dernières années, effectivement, on a vu des jeunes qui se sont battus pour pouvoir avoir accès à la table des décisions en passant par ces structures-là. Mais la fin de l'existence de ces structures-là, comme je l'ai dit, conduit au fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus, même pour les partenaires, moi qui travaille beaucoup avec les partenaires sur ces questions-là, ne sait plus vraiment vers qui se tourner. Aujourd'hui, il est difficile de savoir quel est le positionnement de la jeunesse sur tel ou tel agenda.
Question, oui.
Avant, il y avait, par exemple, un document qui était produit, qui était l'analyse sur les besoins et les aspirations de la jeunesse centrafricaine, et qui permettait, au fait, de nourrir les actions aussi posées par l'ANECA ou par le Conseil national de la jeunesse. Mais aujourd'hui, ce document n'existe plus parce qu'il n'y a plus les plateformes nécessaires pour ça. Et un dernier point, ce qui, moi, m'interpelle, finalement, c'est que, effectivement, vu qu'il n'y a plus d'espace de partage réel, au fait, pour ces jeunes-là, où, d'ailleurs, la contradiction, les idées contradictoires nourrissaient la dynamique de ces espaces-là. Vu qu'il n'existe plus d'espace où on peut avoir des discours contradictoires, bah, au fait, on a l'impression d'avoir une dynamique seulement unique. Le discours unique qui remet en question quelquefois le positionnement de certains jeunes qui sont pleins mais n'ont pas non plus d'espace pour le dire. Et on voit au fait qu'il y a cette dynamique d'étiquetage aussi qui ressort beaucoup. Soit, selon moi, certains jeunes n'ont pas compris le fait que la diversité d'opinion est une richesse aussi pour la construction de l'agenda jeunesse. Soit certains jeunes, au fait, acceptent juste le fait que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es mon ennemi. Ça, c'est vraiment un problème.
Et revenons sur la dernière phrase que vous avez annoncée. Si tu n'es pas d'accord avec moi sur tel point ou tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, tu deviens mon ennemi. Mais on ramène ça sur le terrain politique. C'est dangereux pour le pays.
Effectivement, c'est qu'on ne peut pas, c'est ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas penser l'avenir d'un pays en ayant un discours partisan. C'est que sur le moment, c'est vrai qu'à court terme, c'est bénéfique, mais sur le long terme, on crée des divisions, on plante des graines de division que demain, on aura à récolter. Et les jeunes aujourd'hui qui sont peut-être manipulés, qui sont utilisés pour ce discours-là, au fait, finissent demain par devenir au fait des dangers aussi pour ces acteurs-là qui les poussaient. Exactement. Et pour moi, c'est ce qui m'inquiète le plus parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune frustré. Il n'y a rien de pire qu'un jeune qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas dire ce qu'il pense exactement de la situation du pays dans lequel il se trouve et qui aussi, je pense que c'est important qu'on puisse souligner, qui se tourne vers certains acteurs jeunes qui se trouvent au niveau de la prise de décision et qui leur dit non, tu n'as pas ton point de vue, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es contre nous. Et c'est frustrant au bout d'un moment.
Il faut revenir et peut-être si tu veux donner ton point de vue, tu te mets avec nous dans notre camp se faire attendre. Oui, Norbert, vous voulez réagir sur ce point. Mais d'abord, pour des observateurs sociaux, le gouvernement mène une politique de diviser pour régner au sein de la jeunesse. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'ingérence des autorités dans des affaires internes des organisations autonomes de la jeunesse?
Bon, je pense que là, le débat n'est pas totalement à ce niveau, puisque comme disait celle qui et donc aujourd'hui, moi je suis, j'ai été président de l'Association nationale des étudiants centrafricains, j'ai fait un tour au conseil parce que être président du Conseil national de
l'Association des jeunes
étudiants centrafricains, tu es membre d'office du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Donc aujourd'hui, pour nous, on ne peut jamais accepter que ces associations ou bien ces plateformes puissent disparaître. Parce qu'on est passé par là, c'est comme disait Kessy, c'est un espace.
Nous y sommes aujourd'hui parce que l'ANECA, ça fait 3 ans
que je termine, laissez-moi le temps de terminer.
Oui, allez-y.
Parce que quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi le temps de terminer. Et donc, aujourd'hui, ces plateformes, je pense qu'elles ont une importance pour la jeunesse centrafricaine, pour les jeunes centrafricains, parce que c'est un espace d'échange, etc. Et donc, aujourd'hui, même le gouvernement ne tire pas grand profit pour que ces plateformes puissent disparaître, parce que ça forme des jeunes qui puissent, d'ici demain, assurer la relève de ceux qui aujourd'hui gouvernent. Et aujourd'hui, avec la politique du président de la République, il fait en sorte que les jeunes puissent être dans les instances de prise de décision. Pour être dans les instances de prise de décision, ces jeunes doivent d'abord se former à la base pour pouvoir atteindre ce niveau. Et donc aujourd'hui, c'est à nous jeunes, c'est à nous jeunes à la base de pouvoir nous organiser. Et si nous pensons que si tel n'a pas mon opinion, tel on a des opinions divergentes, c'est mon ennemi, ça c'est des choses que nous devrions aujourd'hui inculquer à la jeunesse. La notion de la diversité d'esprit, de la diversité d'opinion. On peut avoir des opinions divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Et donc aujourd'hui, pour moi, le gouvernement n'a aucun intérêt pour pouvoir diviser la jeunesse parce que déjà, la politique du président de la République, c'est de placer les jeunes à des instances de prise de décision et ces jeunes doivent nécessairement passer par cette plateforme d'échange. Et donc aujourd'hui, je pense que le problème est en train d'être résolu. Je prends l'exemple de l'ANECA. Je m'étais rapproché, je crois, la semaine dernière du recteur de l'université, également du ministre de l'enseignement supérieur. Déjà, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour que l'ANECA puisse revenir. Donc, il n'y a pas cette volonté, je ne vois pas l'intérêt de
cette volonté. Trois ans passés, quatre ans, ça a perduré quand même.
De pouvoir diviser la jeunesse pour rien.
Voilà. Oui.
S'il vous plaît, Armando, j'aimerais rebondir sur la dernière intervention de mon frère Norbert. Je pense qu'il y a une désinformation qu'il est en train d'entretenir à dessein pour tromper ceux qui nous écoutent. Lorsqu'il dit que la politique du chef de l'État consiste aujourd'hui à permettre à ce que les jeunes accèdent aux hautes instances des décisions, moi je dis c'est totalement faux. Parce que je lui renvoie la balle en lui demandant quels sont les critères aujourd'hui pour que les jeunes accèdent aux hautes fonctions de l'État. Nous le savons tous. Les jeunes qui occupent aujourd'hui des fonctions au niveau des instances des décisions ont été cooptés par le parti au pouvoir. C'est pas des jeunes qui ont été désignés par leur père pour porter la voix de la jeunesse d'un point de vue global. C'est des jeunes qui appartiennent à des associations proches du pouvoir. Je donne le cas de Norbert. Si aujourd'hui, il se retrouve chargé de mission à la primature, c'est parce qu'il a une association nommée Toadera Ma Solution. Il n'a été désigné par aucune plateforme de la jeunesse. Donc,
on n'est pas obligé. Ça relève de la discrétion de ceux qui dirigent le pays.
Je suis tout à fait d'accord avec vous que les nominations politiques relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Voilà. Mais venir à faire croire à ceux qui nous écoutent que c'est parce que le chef de l'État a mis en place une politique pour permettre aux jeunes d'accéder aux instances de décision, c'est totalement faux. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une désinformation que vous entretenez Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Quand je vous ai coupé tout à l'heure, vous vous êtes énervé. Laissez-moi finir. Donc moi, je pense que c'est une désinformation entretenue à dessein par M. Norbert. Et pour finir, je dirais, c'est quand je disais au début ici qu'il y a une certaine volonté de mainmise de la politique aujourd'hui sur les organisations autonomes de la jeunesse, mais c'est pas du tout faux. Armando, vous l'avez relevé ici que ça fait depuis 3-4 ans que l'ANECA ne fonctionne plus. C'est pas aujourd'hui que M. Norbert vienne sur Patara pour nous amadouer en disant qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour que l'ANECA soit restaurée. Même s'il y a des démarches qu'ils ont mises en place, tant qu'il n'y a pas une structure autonome pour gérer ces élections, nous reviendrons dans les mêmes cas de figure que le Conseil national de la jeunesse. J'avais déjà dit ici sur Patara qu'on ne peut jamais être à la fois juge et partie. Nous savons que ceux qui sont aujourd'hui dans les institutions qui soi-disant représentent la jeunesse, ils ont un certain parti pris avec le régime en place. Du coup, ils ne peuvent pas organiser des élections crédibles pour permettre à ce que ceux qui soient élus représentent effectivement la voix de la jeunesse centrafricaine.
Oui, Kissy.
Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur le point de la politique du président qui vise à pouvoir créer de l'espace au fait pour les jeunes dans les instances de prise de décision. Et là, pour moi, c'est pas tant le président qu'il faut voir, mais c'est de voir ces jeunes au fait qui ont ces responsabilités-là. Je pense que clairement aujourd'hui, si on fait le bilan de ce qui est fait, des initiatives qui sont portées et autres, à moins que ce soit un problème de communication, donc de visibilité sur les actions menées, mais on ne voit rien. À l'époque, au moins, on a beau être d'accord ou pas d'accord avec la dynamique du Conseil national de la jeunesse, mais il en restait pas moins qu'il y avait ce qui était appréciable et ce qui permettait aux gens de jauger un peu la dynamique nationale, c'est qu'il y avait des pour, des contre, et puis il y avait des débats, et puis des divergences d'idées qui allaient dans ce sens-là, et il y avait une instance qui pouvait expliquer un peu, bon, il y a eu ce débat, les jeunes ont pensé ci, les jeunes ont pensé ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette dynamique-là. On a l'impression qu'il y a une seule vérité. Et c'est ça qui devient inquiétant pour le coup. C'est que la responsabilité, c'est ce que je vais dire, c'est que la responsabilité de ces jeunes qui sont à ces postes de décision et à questionner, de dire quel espace, c'est bien que vous y êtes, et c'est le combat, c'est le fruit d'un combat porté depuis des années, c'est pas seulement il a récupéré aussi le combat qui a été mené depuis des années, je pense peut-être bon, monsieur Pounaba, depuis que vous êtes, je peux terminer s'il vous plaît,
allez-y.
Pendant que vous étiez peut-être au niveau de l'ANECA, c'était un combat aussi de voir des jeunes avoir des postes de prise de décision, mais aujourd'hui quelle est la place une fois qu'on y est? quelle est la place qu'on donne à ces jeunes-là, quelle porte on ouvre pour permettre au fait d'avoir ces divergences d'opinion, de pouvoir nourrir le projet de société qui est porté par le président de la République. Je donne un exemple simple. Il y a une analyse qui est en cours, c'est l'analyse prospective sur la vision République centrafricaine 2050, qui est un énorme dossier, un énorme agenda national, très peu connu de la population, mais pourtant, qui je pense, ça, on se lance sur 2050. En 2050, la majorité des décideurs d'aujourd'hui ne seront peut-être plus là. Donc les personnes, au fait, dont la voix devrait porter aussi sur cet agenda-là, qui devait être sensibilisées sur cet agenda-là, ce sont les jeunes. Mais on n'en entend pas parler. Là, le dossier avance, mais il n'y a aucune initiative réelle, au fait, de la jeunesse autour de cette question-là. Et moi, ce sont ces questions-là qui m'interpellent au-delà de la politique. C'est le projet de société et la place de la jeunesse et les espaces d'expression de la jeunesse.
Nous savons que, ces organisations de la jeunesse, au niveau, par exemple, l'ANECA et le Conseil national de la jeunesse, qui ne fonctionnent plus depuis quelques mois ou depuis quelques années, mettent en difficulté aujourd'hui les jeunes, parce que ces deux organisations regroupent des jeunes de différentes régions, de différentes préfectures, de différentes obédiences politiques. Ça vous va bien, mais aujourd'hui, par manque de ces organisations, est-ce qu'on est en train de vouloir diviser les jeunes? Parce qu'il y en a qui vont se retrouver, hein, peut-être du côté de l'opposition, peut-être du côté du pouvoir, et du coup, ça crée des divisions, puisque ces organisations devraient les regrouper, malheureusement.
Pour moi, c'est une division de fait. Mais aussi, il faut analyser la chose à trois niveaux. Il y a une division de fait. La première étant que, oui, effectivement, si je ne suis pas d'accord et je me rends compte que de l'autre côté, je n'ai pas d'espace pour pouvoir m'exprimer, je me retire. Et il y a ceux aussi, au fait, qui laissent aller. Et ça, c'est dangereux. C'est que, autant ce qui était intéressant avec ces instances-là, c'est qu'ils avaient cette capacité de mobilisation à la base pour donner l'opportunité à n'importe quel jeune, éduqué ou non, de pouvoir donner son avis. Mais aujourd'hui, on assiste à, si je suis pro ou contre, vous voyez, une fois de plus, je reviens dessus. Ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir saisir, au fait, le pouls de ceux qui se sentent neutres, au fait, dans tout ça. Certaines personnes ne veulent pas prendre position, mais veulent donner leur avis quand même. Mais ceux-là n'ont plus d'espace non plus. Et c'est, pour moi, c'est ceux-là sur lesquels on devait poser un regard et se questionner sur l'avenir, au fait.
Et donc, ceux qui sont pour donnent leur point de vue, ceux qui sont contre donnent leur point de vue, mais ceux qui sont neutres, ils sont abandonnés à l'être successeur.
Pour moi, c'est comme ça que j'analyse la chose.
Oui, monsieur Pounaba, vous voulez rebondir rapidement sur ce point.
Je pense qu'aujourd'hui, si on centralise trop le débat sur l'ANECA et le Conseil national de la jeunesse,
ces deux instances qui regroupent des jeunes sans distinction.
Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut savoir que ce soit le Conseil national de la jeunesse, que ce soit l'ANECA, c'est des plateformes à ne pas négliger, au travers desquelles les jeunes se sont exprimés et qu'on a découvert des talents au milieu jeune. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on a suspendu les activités du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, mais il existe des plateformes de la jeunesse telles que les plateformes confessionnelles de la jeunesse qui existent et qui continuent de travailler. Il existe également ce qu'on appelle des organisations décentralisées de la jeunesse. Tu as des associations, des conseils préfectoraux de la jeunesse qui existent et qui donnent la possibilité aux jeunes également de pouvoir s'exprimer. Il y a les conseils d'arrondissement de la jeunesse parce que, au fait, le Conseil national de la jeunesse, c'est l'organe, c'est l'organisation fêtière. Mais jusqu'aujourd'hui, même si le bureau exécutif est suspendu, mais il faut reconnaître que les autres structures décentralisées également, les associations ou autres plateformes.
Mais s'il s'agit de les écouter, est-ce que vous allez toutefois les regrouper, hein, pour les écouter? Je parle de 16 préfectures, des sous-préfectures, des arrondissements,
etc. Je pense qu'ici, c'est pourquoi je dis que c'est important que nous puissions avoir le Conseil national de la jeunesse et également l'ANECA. Mais dire qu'aujourd'hui, on veut faire disparaître les jeunes, on veut à ce que les jeunes ne puissent pas s'exprimer, c'est totalement faux. Parce qu'à travers ces organisations, les jeunes continuent de s'exprimer. Il y a des projets qui sont exécutés par un certain nombre de partenaires, mais qui passent par ces organisations décentralisées de la jeunesse. Mais nous pensons qu'il est important que nous puissions remettre sur pied le Conseil national de la jeunesse et l'ANECA. Il n'est pas de la volonté des autorités aujourd'hui. Nous qui, comme disait nous qui sommes jeunes et qui aujourd'hui nous retrouvons au niveau de ces instances, on ne peut que faire des plaidoyers dans ce sens. Hein, jusqu'aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens. Et c'est ce que je vous dis et je vous rassure que n'eût été l'affaire au niveau du tribunal de grande instance. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait déjà trouver une solution par rapport au Conseil national de la jeunesse. Et l'ANECA, nous y travaillons. Je pense que dans les jours à venir, vous allez voir revenir ces plateformes de la jeunesse. Et il faut aussi comprendre qu'en dehors de ces plateformes, il y a des organisations neutres de la jeunesse qui continuent de fonctionner et qui ne sont pas musulmans.
Oui,
non, monsieur Kassan. Armando, j'ai très bien suivi monsieur Norbert, mais quand il dit qu'il y a des plateformes, par exemple, confessionnelles de la jeunesse qui travaillent, qu'il y a des représentants dans les sous-préfectures de la République. Non, il se pose aujourd'hui un problème de légalité et de représentativité au niveau national. On peut beau avoir des jeunes au niveau de Bambari, au niveau de Boa, qui s'expriment librement. Mais lorsque nous n'avons pas l'ANECA, lorsque nous n'avons pas le Conseil national de la jeunesse, ça pose un sérieux problème de légalité.
Je n'ai pas dit le contraire.
Je vous complète, je suis en train d'aller dans le même sens du dernier point de votre plaidoyer. Nous sommes tout à fait d'accord que c'est le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse qui est aujourd'hui suspendu. Au niveau des conseils préfectoraux, quand les organisations internationales comme la MINUSCA veulent travailler, ils travaillent avec ces conseils préfectoraux. Mais est-ce que, de vous et moi, est-ce que ces organisations-là ont la légalité pour assurer la représentativité nationale de la jeunesse? C'est faux. Je vais revenir encore sur un point. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation de la République centrafricaine, je pense que vous avez aussi suivi l'intervention de la représentante de la haute représentante
Valentine Rugwabiza.
De la France qui a dit que si le référendum doit se tenir, mais que cela prenne en compte l'avis de toutes les composantes de la population. Mais aujourd'hui, si
on met un accent particulier sur les jeunes et les femmes.
Exactement, Norbert. Mais aujourd'hui, si on veut avoir l'avis de la jeunesse centrafricaine par rapport au référendum, comment s'y prendre? Ça pose question de légalité et de représentativité nationale. Par exemple, moi, Ben, je n'ai pas la légalité, la légitimité pour parler au nom de toute la jeunesse centrafricaine. C'est pas parce que j'ai un espace d'expression sur Patara, par exemple, que je parle au nom de la jeunesse centrafricaine. Mais si la politique n'avait pas fait la mainmise sur ces organisations et que nous, le Conseil national de la jeunesse centrafricaine était encore en fonction, mais naturellement, des débats contradictoires devraient se tenir à l'interne pour permettre d'avoir l'avis général.
On va gagner du temps parce que le temps le fait deux fois. Après la dissolution de l'ANECA et du Conseil national de la jeunesse, certains leaders de ces mouvements de la jeunesse sont assujettis soit au pouvoir, soit à l'opposition. Et la question de la manipulation de la jeunesse est déplorée par tous. Avec cette allure, Madame Kessié Komo, quel est l'avenir de la génération future?
Ça, c'est une vraie question qu'il nous faut nous poser. Et ça, c'est une analyse à faire de manière très froide. On met de côté, au fait, les appartenances. Je reviens encore sur le fait qu'il s'agit de penser les projets de société. Penser l'avenir de la République centrafricaine. Et comme je disais au début, c'est que la manière dont on traite aujourd'hui la jeunesse déterminera la manière dont cette jeunesse se comportera aussi demain. C'est qu'on peut la mobiliser, la manipuler sur une période donnée. Dans le court terme, sur un agenda donné, stratégiquement, ça passe. Mais maintenant, les prochaines étapes, demain, quand tu habitues une jeunesse à être payée pour sortir dans la rue, à être payée pour pouvoir, ou de quelquefois menacer aussi certains de leurs pères au quartier, juste pour des raisons d'appartenance ou non, ce qui ressort beaucoup, hein, on a des cas documentés sur ça, on se rend compte aussi que se pose la question de où on va. Ça veut dire qu'on prépare psychologiquement ces jeunes-là, on les moule sur une manière de penser, sur une manière de prendre position. Au fait, on détériore l'approche même de la citoyenneté et de l'action citoyenne. Basiquement. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément parce que, une fois de plus, je vois, même au niveau communautaire, je bouge beaucoup dans les provinces où je rencontre beaucoup les organisations de jeunes sur place. Effectivement, ils ont beau avoir cet espace au niveau des maisons de jeunes où quelquefois ils peuvent échanger, mais il y a une crainte qui est là. Et on sent un désengagement progressif d'une large part de la population, de la jeunesse du moins. Et il faut dire qu'au fait, les jeunes dont nous parlons, qui sont manipulés dans une certaine mesure, ils le sentent, mais ils représentent une minorité. Par rapport à la majorité qui a peur de pouvoir s'engager sur ces questions-là parce qu'ils estiment que la politique est bien trop compliquée ou la politique est bien trop dangereuse. Et c'est ce qu'il nous faut éviter. Si nous voulons des citoyens centrafricains à même de pouvoir donner leur avis. Je donne un exemple très rapide sur la tokenisation, par exemple, qui est un sujet, mais je pense que 99,9% de la population centrafricaine ne maîtrise même pas les tenants et les aboutissants de ce document. Pour moi, c'est quelque chose qui détermine l'avenir du pays. Mais au fait, on n'a jamais eu de discussion, on n'a jamais sensibilisé les jeunes, demander leur avis sur ce qu'il en est. On remet en question même l'utilité et la valeur des terres du pays. Donc, pour moi, ne pas avoir d'espace pour ces jeunes-là, ne pas leur permettre de pouvoir donner leur avis, c'est remettre en question complètement l'avenir de la République centrafricaine. Elle ne s'arrête pas pour les 20 prochaines années. elle s'arrête peut-être pour les, enfin, elle continue encore pour les 50, 60, 70 années. Et ce sont ces jeunes que nous manipulons aujourd'hui qui seront demain au niveau de la prise de décision. Et ça, ce que nous créons aujourd'hui, on récoltera peut-être les erreurs demain.
Oui, Gassan, la même question pour vous. Manipulation de la jeunesse pour des fins politiques.
Non, ben écoutez, Armand, c'est avec beaucoup d'effroi hein, que nous abordons la question, parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la jeunesse, instrumentalisation de notre jeunesse des fins politiciennes, ainsi de suite, on craint effectivement pour l'avenir de la jeunesse. Et je crois l'avoir déjà dit dans une de vos émissions ici sur Patara, que nous vivons aujourd'hui le renversement de l'échelle des valeurs sociales en République centrafricaine. Parce que plus on ne donne pas le temps, on n'associe pas la jeunesse à la gestion du pays, c'est une politique d'exclusion qu'on est en train de pratiquer. Comme Kessy l'a dit, ça va créer des frustrations qui sont déjà des bombes à retardement pour les 5, 10 années à venir. Donc, pour moi, lorsqu'on dit que la jeunesse centrafricaine représente plus de la moitié de la population, c'est important que ceux qui sont à la tête du pays prennent en compte l'implication réelle de la jeunesse centrafricaine. Tout à l'heure, Norbert évoquait le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui accèdent aux instances de décision. Mais c'est quoi? Ces jeunes-là, ils représentent quoi? Est-ce qu'ils ont la capacité d'influencer la politique générale du gouvernement? C'est ça la vraie question à poser. C'est bien beau d'avoir des jeunes comme chargés de mission, c'est bien beau d'avoir des jeunes comme ministres de la République, mais en quoi ces jeunes-là influencent la politique générale du gouvernement?
Mais c'est cette manipulation, il faut aussi le relever. C'est pas aussi l'apanage seulement du gouvernement, mais on voit aussi ceux de l'opposition et ceux qui sont dans les groupes armés qui manipulent les jeunes, qui leur donnent des armes pour aller tuer, etc. Mais tout ce qu'ils font, on voudrait ici parler de la conscience de la jeunesse elle-même. Donc, c'est qu'elle est appelée à faire.
Non, mais l'orientation doit venir de ceux qui sont au pouvoir.
Absolument.
Quand on ne donne pas la possibilité aux jeunes d'accéder à des opportunités. Par exemple, à travers les études, à travers la culture, à travers le sport, lorsque la jeunesse est démunie, lorsqu'on entretient à dessein la misère de la jeunesse, où voulez-vous que les jeunes se retrouvent? Ils se retrouveront certainement dans les groupes politico-armés, ils se retrouveront certainement en train de faire de l'opposition, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire la responsabilité première incombe d'abord au gouvernement. On ne peut pas dédouaner le gouvernement en ce qui concerne l'inclusion et la promotion de la jeunesse.
Monsieur Norbert Pounaba, sur ce point, manipulation de la jeunesse, vous avez aussi 3 minutes comme les autres.
Bon, comme vous l'aviez dit, je pense que vous avez déjà relevé ce qui devrait être dit. Parce que quand on parle aujourd'hui de la sensibilisation de la jeunesse, de la manipulation de la jeunesse, il ne s'agit pas de parler que du gouvernement. Nous savons tous comment est-ce que ça fonctionne ici dans ce pays. Nous regardons, parfois on parle du gouvernement, alors que ceux qui font beaucoup plus, ceux qui manipulent beaucoup plus la jeunesse, ce sont ceux qui sont dans l'opposition, ce sont ceux qui sont dans les groupes armés et qui donnent des armes aux jeunes pour pouvoir tuer un autre jeune, etc. Tu penses que le travail devrait être fait à ce niveau? Et pour ce travail, on ne peut pas directement dire il n'y a que le gouvernement qui puisse faire le travail. Il y a également des organisations de la société civile. Il y a des organisations de la société civile. Je profite de votre micro pour apprécier Kessy Ekomo, qui, étant jeune, à travers également sa manière de voir les choses, a créé une organisation qui aide aujourd'hui, qui accompagne les jeunes, qui sensibilise les jeunes. Si tous les Centrafricains pouvaient se mettre dans cette posture pour qu'en dehors du gouvernement, on crée des organisations de la société, non pour manipuler les jeunes à prendre des armes, pour s'attaquer au gouvernement lorsque le gouvernement fait bien, mais également pour sensibiliser les jeunes au sens du patriotisme, pour sensibiliser les jeunes au sens de la citoyenneté. C'est le travail qui devrait être fait par tout le monde. Donc ça ne On ne peut pas toujours dire que c'est le gouvernement qui doit faire le travail, mais chacun, dans son coin, peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice.
Mais donc, déjà, si je comprends très bien, oui, si je vais vous donner la parole, si je comprends très bien ce que dit Ben Ghassan, c'est que c'est le gouvernement qui est maintenant aux commandes de l'État, de la République africaine. Le gouvernement n'est pas le gouvernement du pouvoir pour les jeunes du pouvoir, mais exact. Le gouvernement est pour toute la jeunesse centrafricaine.
Mais
c'est ça la question.
Depuis que le gouvernement existe, est-ce qu'en dehors du gouvernement, le gouvernement a suspendu toutes les autres structures de la jeunesse ou des organisations de la société civile? Quel est le rôle?
Non, on parle de la vision, hein, oui. La vision à donner à
cette jeunesse. Oui, mais la vision à donner, c'est ce que aujourd'hui le gouvernement fait. Si aujourd'hui vous voyez en dehors des autres départements, le président, après son élection, a mis en place un département qu'on appelle département, c'est-à-dire le ministère de la promotion de la jeunesse, oui. Ça veut dire que ça rentre déjà dans la vision du président de la République, a fait la promotion de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, la promotion de la jeunesse ne peut que passer par des actions du gouvernement. Aujourd'hui, déjà quand on parle de la jeunesse, il y a deux types. Il y a des jeunes qui s'engagent généralement pour être dans la fonction publique, etc., tout et tout. Mais il y a également des jeunes qui sont du secteur privé. Et donc le gouvernement travaille dans ce sens, même si on doit faire la promotion des jeunes qui optent pour être dans la fonction publique. Mais également, il y a un travail qui se fait au niveau du gouvernement pour que des jeunes qui ne veulent pas rentrer dans la fonction publique du secteur privé, qu'on puisse faire également leur
quelque
promotion.
Chose à faire.
Voilà, donc le travail doit se faire à tous les niveaux et chaque centrafricain, là où il se trouve, doit également apporter sa contribution aujourd'hui.
Comment? Parce que vous ne pouvez pas demander à un centrafricain qui se trouve à Ndélé ou à Burao, qui n'a rien à faire aujourd'hui, de vous favoriser l'espace puisque vous êtes au commandant.
Je vous donne un exemple. Hein, aujourd'hui, vous voyez le ministère de la promotion de la jeunesse. Il y a un projet à travers des plaidoyers au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il y aura une banque. Une banque pour accompagner des jeunes qui veulent entreprendre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté déjà du gouvernement pour faire la promotion des jeunes qui ne veulent pas être dans la fonction publique, mais qui veulent être dans le secteur privé. Et donc, quand tu vois aujourd'hui les jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il se pose un problème. D'abord un problème de financement. Après, quand tu veux faire des emprunts en banque, on te demande d'avoir des garanties. Et le gouvernement sait qu'un jeune qui finit aujourd'hui et qui veut entreprendre ne peut pas avoir des garanties pour son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des conditions pour que ces jeunes qui veulent commencer à entreprendre, qu'on puisse mettre à leur disposition des moyens, également des garanties, hein, pour leur permettre de lancer leurs affaires, etc. Donc c'est tout ce travail-là que le gouvernement fait, autant pour développer le secteur public, mais également pour développer le secteur privé.
Oui, Kessy, vous voulez répondre tout à l'heure, madame.
Oui, très rapidement. Pour moi, c'est effectivement le point. Il est important que chaque acteur puisse jouer son rôle dans une certaine mesure. Mais pour moi, se pose la question de l'espace qui est donné, une fois de plus. Quand, effectivement, les organisations de la société civile, les associations de jeunes organisent des rencontres, quand on sensibilise, quelquefois la sensibilisation aujourd'hui devient aussi un problème. Dans la mesure où le contenu de la sensibilisation, surtout quand en face, on a une narrative qui est au fait fausse, donc c'est un mensonge, au fait qui est divulgué, une dynamique de propagande. Et de l'autre côté, on essaie de ramener des supports pour permettre aux jeunes de se poser des questions, de réfléchir et de prendre leur propre point de vue. C'est considéré comme une menace. Et pour moi, ça, c'est un problème qu'il faut prendre en compte. Donc, effectivement, chacun peut jouer son rôle. Mais à quel moment est-ce qu'on peut reconnaître la légitimité du rôle que chacun a à jouer? Est-ce qu'on a encore cet espace pour pouvoir dire, bon, sur la Constitution, effectivement, moi, je pense ci, moi, je pense ça. On peut ne pas être d'accord ou pas. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui cet espace pour pouvoir se poser la question et se dire qu'on peut donner notre avis au fait sur le contenu de la Constitution, par exemple? Et la question aussi pour moi, c'est se poser la question, questionner pour moi, ça ne veut pas dire être contre. Ça aussi, c'est une différence qu'il faut mettre, qu'il faut clairement mettre dans le milieu de la jeunesse. Questionner et se poser la question de pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi vous dites ça, mais prouvez-nous pourquoi vous êtes en train de prendre cette position-là. Tout de suite, il y a un communiqué qui va sortir, qui va dire au fait que on est contre tel, on essaie de pousser les jeunes à se rebeller. Non, c'est pas comme ça que les choses se font. Et je ne pense pas que ce sera bénéfique sur la durée, même au-delà de la vision politique du gouvernement, mettre au fait ce bâillon un peu sur la société civile et sur les organisations de jeunesse qui n'ont pas vraiment d'espace pour questionner les choses est pour moi une vraie menace au fait pour l'avenir du pays.
Et face à la politique, on voit des jeunes qui sont même à l'avant-garde de la mobilisation pour ou contre le changement de la Constitution. Est-ce qu'ils sont conscients de leur rôle, hein, qu'ils sont appelés à jouer pour les intérêts des politiques?
Pour moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est une question qu'on s'est posée avec mes collègues, et on a fait ce sondage où on a demandé à 1800 jeunes, c'était vraiment un échantillon très très petit, mais où on a demandé s'ils avaient lu, au fait, la Constitution. Et ces jeunes-là, on les a trouvés pendant la marche au point zéro. Ils étaient là. Et ces jeunes-là nous ont dit que la plupart, enfin, quasiment 98% n'avaient jamais lu.
Ils ont lu quelle Constitution?
Il n'y a pas d'actuelle Constitution. Je termine ma phrase. Ils ont lu la Constitution, ils nous disent ne pas avoir lu la Constitution de 2016. Ce qui a changé, il faut d'abord lire ce qui a, pourquoi tu dois le changer.
Oui,
tu dois lire
le
document de...
Ça, c'est un travail qui doit être fait également par la Cour constitutionnelle.
Je parle des jeunes, je ne parle pas de la Cour constitutionnelle.
De prime abord,
il faut d'abord, quand je dois prendre une décision éclairée et pouvoir revendiquer quelque chose, je lis d'abord ce qui a la raison pour laquelle ce document-là, qu'est-ce qui ne me plaît pas dedans. Oui. Effectivement, quelqu'un peut venir me sensibiliser, mais on ne sensibilise pas sur des mensonges. On ne sensibilise pas sur de la projection. Le nouveau texte n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas se projeter dans certaines mesures pour pouvoir mobiliser ces jeunes-là.
Est-ce qu'on a déjà commencé les campagnes référendaires?
Pour moi, c'est un problème.
Mise à la discussion.
Non, c'est pas ça. Madame Kessy est en train de parler de la Constitution actuelle.
Est-ce que les gens ont lu la Constitution actuelle?
Est-ce que vous connaissez ce qui est dans la Constitution?
On parle de ceux qui sont partis comme manifestation.
Oui, c'est ça. En attendant, est-ce qu'on peut la laisser continuer?
Ce qui m'inquiète, c'est que si vous trouvez que ce qui est en train de se passer est normal, moi, ça m'inquiète aussi de vous savoir, comme chargé de mission en matière de jeunesse au niveau de la primature. Vous estimez que la majorité des jeunes n'ont pas lu la Constitution et que malgré tout, ils vont soutenir quelque chose qui n'existe pas.
Je n'ai pas dit.
Quand vous dites que la majorité des jeunes n'ont pas lu, comme ça vous allez répondre, lire le document, de pouvoir prendre leurs décisions sur la base au fait de données, de documents clairs et surtout pas de mensonges. On ne théorise pas sur une constitution. On ne théorise pas en disant qu'on a je ne sais pas combien de versions de documents qui dit que ce qui va être changé. On nous parle d'âge de la présidence à 18 ans pour pouvoir créer de l'espace pour les jeunes. Peut-être que c'est vrai, mais on ne théorise pas. Il faut que ça se base sur du vrai. Moi, en tant que citoyenne centrafricaine, j'aimerais pouvoir voter et pouvoir prendre position sur cette question-là. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas pris position parce que je ne sais pas sur quoi je vais voter au référendum. Et pour moi, ça m'inquiète pour la majorité de mes pairs qui, au fait, se retrouvent dans la même situation et se posent la question de la manipulation, pour le coup. S'ils sont dans la rue, sur quelle base? Sur quelle base documentaire? Et vous êtes jeune et vous êtes intellectuel, M. Pounaba.
Oui.
Mettez-vous à la place de ces jeunes-là. Et si vous pensez que c'est normal de les voir sortir dans la rue, dans cette dynamique-là, c'est que pour moi, je me questionne de... Attendez, ils nous représentent quand même là-bas.
Vous avez soulevé un point, vous n'avez pas encore terminé. Je reviens sur vous. Vous l'avez dit, vous avez posé des questions, vous avez fait des sondages avec ces jeunes par rapport à votre organisation, mais la majorité a répondu non parce que elle n'a pas lu le document. Vous voulez parler de quel document?
On parle de la Constitution de 2016. Donc, au fait, c'est ce document-là, parce que c'est ça, pour prendre une décision, c'est de la logique bête et simple. Pour prendre une décision, déjà, on me montre le document, j'ai lu le document sur lequel je ne suis pas d'accord. Ou bien, on me montre que voilà ce qu'il y a enlevé. Je le lis, je me fais mon opinion. Et c'est là qu'on parle de manipulation, dans la mesure où, si ce n'est pas toi-même qui te fais ton opinion, c'est qu'on te force à pouvoir prendre une position. Mais c'est que tu n'es pas responsable direct au fait de l'acte et du positionnement que tu prends. Après, si je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, c'est l'échantillonnage qu'on a eu, c'est peut-être pas représentatif, si l'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que ces jeunes-là que je vois et que j'ai rencontrés lors de cette manifestation-là ne savaient quasiment pas vraiment de ce qu'il en était. Au fait, ils ne savent même pas quasiment ce que c'est qu'une constitution en soi. Et pour moi, ça, c'est vraiment problématique pour l'avenir.
Oui, monsieur Pounaba, vous avez plusieurs fois tenté de prendre la parole. Vous avez maintenant la parole. Vous avez 3 minutes 50 secondes.
Je pense
comme Madame Kessy-Ekomo.
Quand j'ai posé la question de savoir, je dis, c'est pour savoir quel document Madame Ekomo en parle. Elle me dit, il n'existe pas un texte pour l'instant. Mais non, à partir du moment où, quand on parle du référendum constitutionnel, c'est qu'on n'a pas encore modifié la Constitution. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Aujourd'hui, il y a une catégorie de la population, ceux-là, effectivement, qui ont lu cette Constitution, ont pensé que cette Constitution, aujourd'hui, ne répond pas à nos réalités.
Et donc, ça veut dire que vous, les leaders, vous avez lu. Mais est-ce que ceux qui sont appelés à manifester pour demander le changement de cette Constitution ont lu, c'est ce que la dame a dit.
Laissez-moi le temps de terminer, quand on parle du référendum constitutionnel, il y a des gens qui ont lu la Constitution et qui ont pensé que la...
Des jeunes, on parle des jeunes.
La jeunesse fait partie de la population. Je parle de la population dans tout son ensemble. Donc, quand on parle du référendum constitutionnel,
on n'est pas encore allé à la révision de la Constitution. Mais c'est pour demander à la population si est-ce que on peut modifier cette constitution sur la base de cette population ou bien de cette catégorie de la population, ceux-là qui ont lu la constitution et qui pensent qu'il faudrait la modifier, ceux-là qui ont lu la constitution qui pensent que la constitution actuelle ne peut pas être modifiée. Donc il fallait, dans un premier temps, aller au référendum pour demander d'abord l'avis de cette population. Maintenant, quand on me dit que il n'existe pas, il y a des jeunes qui aujourd'hui ne maîtrisent pas ce qu'ils font, etc. Ils sont dans la rue, ils sont manipulés, etc. Tout. Mais également de l'autre côté. Quand on dit ça, c'est le gouvernement qui fait le travail, mais ceux-là qui manipulent également les jeunes pour aller à l'encontre de cela. C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Je pense que aujourd'hui, ce travail qui doit être fait, c'est pas un travail qui doit être fait par le gouvernement. Mais il existe également une institution appelée Cour constitutionnelle qui, devrait vulgariser la Constitution pour que ceux-là qui ne maîtrisent pas la Constitution puissent savoir qu'est-ce qui se trouve effectivement dans cette Constitution.
Et qui nécessite la modification. Le changement.
Exactement. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes qu'à un référendum constitutionnel. Le jour où les campagnes référendaires vont commencer, ce qui est sûr, un document va être mis à la disposition. D'après, si vous avez suivi le directeur national de campagne, un document va être mis à la disposition et qui va être vulgarisé pour que la population comprenne exactement qu'est-ce qui doit être modifié, qu'est-ce qui ne devrait pas être modifié.
Oui, Madame Ekomo, je vous vois remuer la tête. En tout cas, vous voulez répondre. Hein.
Moi, je vais analyser les choses de manière très froide. Je ne suis pas partisane. Pour moi, en tant que centrafricaine, Je me pose la question de est-ce que je vais voter oui ou non et qu'est-ce qu'il en est? La chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler souvent avec ce document-là, de le lire effectivement.
C'est-à-dire la constitution actuelle avant de voir ce qui va se faire dans
la
nouvelle.
Et comme je disais, il y a ce travail qui est fait de pouvoir au fait sensibiliser les jeunes, pour permettre aux jeunes de le lire et de mettre en parallèle au fait ce qui est promu, la propagande qu'il y a autour du changement, de pouvoir au fait prendre ce qui est promu et de voir est-ce que ça ressort vraiment dans la constitution. Et pour moi, le point, comme vous l'avez souligné, c'est peu importe qu'on soit pour ou contre, aujourd'hui la question c'est est-ce que nos jeunes que nous voyons dans la rue ont assez de distance par rapport aux choses pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Et pour moi c'est ça qui est problématique. Surtout que les supports utilisés pour la mobilisation de ces jeunes-là sont pour moi fallacieux. Donc pour moi c'est problématique à ce niveau-là. Et là clairement je vois mes pères manipulés dans la rue. Et ça me fait mal.
Voilà, ça c'est votre point de vue. Ben, vous prenez la parole, vous avez 3 minutes j'allais dire. Comme les
autres. Non mais écoutez,
sur la manipulation de la jeunesse, mais je voudrais aussi attirer l'attention de tout le monde qu'on ne parle pas que du gouvernement,
on parle de tout le monde.
Du pouvoir, de l'opposition, ceux qui sont dans les groupes armés. La manipulation de la jeunesse aujourd'hui est une chose sûre et bien remarquable par tous. Hein.
Armando, tout d'abord, j'aimerais prendre Monsieur Norbert Pounaba au mot. Tout à l'heure, quand je parlais de la responsabilité du gouvernement et aussi des acteurs à pouvoir construire une conscience collective en République centrafricaine, Monsieur Norbert Pounaba a loué devant tout le monde ici les actions que pose Madame Kissi Ekomo avec son organisation. Je suis surpris.
De la société civile, bien sûr.
Oui, de la société civile. Je suis surpris qu'au moment où Madame Kissi Ekomo évoque un sondage réalisé par son cabinet, ça suscite une vive colère chez Monsieur Norbert Pounaba.
Quand on apprécie quelle action Madame
j'ai
apprécié Madame Kissi
Ekomo du fait dans les minutes
qu'elle a créé une organisation qui aujourd'hui accompagne les jeunes.
Au moment où elle parle,
et j'ai donné cet exemple pour que si chacun pouvait,
est-ce que je peux m'exprimer,
faire autant,
mais est-ce que je peux m'exprimer? Et exactement, au moment où elle donne un cas précis d'un sondage réalisé par son cabinet, du coup vous n'êtes plus d'accord. Du coup vous ne reconnaissez plus cette dame-là qui pose des actions en faveur de la population. Anyway,
il faut écouter le fond.
Ce qu'elle a dit ici, il faut d'abord extrêmement
du sondage. Parce que Monsieur Pounaba,
mais laissez-moi finir, Monsieur Norbert Pounaba, vous perturbez le débat.
Allez-y, s'il vous plaît.
Ce qu'elle dit est extrêmement grave. Quand on parle d'un échantillon de la population qui était sortie manifester,
mais échantillonnage.
Non, mais
elle a précisé.
Est-ce que je peux m'exprimer, Monsieur Norbert Pounaba?
Allez-y.
Mais c'est extrêmement
grave.
Allez-y,
non, le temps fait de fond. On va boucler bien.
Lorsqu'elle parle de 98% de ceux qui sont sortis qui ont témoigné ne pas avoir eu la chance de lire ne serait-ce qu'une seule fois la Constitution.
Tu sais comment est-ce qu'on fait un échantillon?
Non, mais écoutez, Monsieur Norbert, est-ce que je peux m'exprimer?
Monsieur Norbert, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Oui, allez-y.
Non, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce qu'elle a dit. Aussi, je prends le second point.
On parle aujourd'hui de changement de la Constitution à un moment où nous n'avons pas le texte de la nouvelle Constitution. Vous avez entretenu encore une désinformation ici à dessein pour dire que le texte sera connu au moment de la campagne référendaire. Mais c'est totalement faux. D'après
totalement faux.
Mais laissez-moi m'exprimer, monsieur Norbert. Laissez-moi m'exprimer.
Vous prenez note. Hein? Oui, allez-y. On a quelques secondes.
D'après la Constitution du 30 mars 2016, au moment où on doit convoquer le corps électoral pour le référendum, le texte de la nouvelle constitution doit être annexé au décret de convocation du corps électoral. Ce que M. Touadéra n'a pas fait, c'est une énième violation de la constitution par le régime de M. Faustin Archange Touadéra. Et non, mais soyons sérieux. On dit que le texte sera connu pendant la campagne référendaire, tout en sachant que la campagne référendaire, c'est seulement pour 2 semaines. Non, soyons sérieux. Vous êtes un intellectuel, monsieur Norbert Pounaba. Ne déshonorez pas la jeunesse que vous êtes censé représenter au niveau des instances de décision.
Je pense que
décision.
C'est vous qui déshonorez la jeunesse.
Alors, parce que quand vous parlez de 2 semaines, est-ce que vous pensez que valablement en 2 semaines, la population aura le temps de mieux comprendre le texte de la Constitution? Celui qui habite à Birao aura le temps. Mais vous déshonorez la jeunesse.
C'est vous qui déshonorez à travers vos campagnes.
Quelle campagne, moi,
aujourd'hui, vous entretenez des campagnes.
Aujourd'hui, quand vous parlez,
quand on parle de G16,
la population de Birao,
quand on parle de G16, je parle également de la population. Je suis désolé, le débat, c'est la fin. Monsieur Ngassane, monsieur Pounaba,
le temps compte de la constitution.
Et c'est la fin, vous avez vu. On va nous couper, je vous en prie, on va nous couper. Et c'est la fin de ce débat politique consacré à la jeunesse centrafricaine face à la manipulation politique. J'espère que vous avez retenu plein de choses dans cette émission. Vous pouvez poursuivre les discussions chez vous à la maison. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Vous pouvez réécouter cette émission, ce débat politique, en podcast sur www.radiondekeluka.org. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je vous aime tant. Au revoir.